Alléluia, bonsoir. Merci Seigneur pour ces chants qui transportent nos cœurs et les disposent à recevoir le message de l'Évangile. Ils parlent déjà par eux-mêmes, les paroles nous annoncent bien l'essentiel de l'Évangile, de ce que Jésus a fait pour nous, de ce qu'il peut faire encore aujourd'hui. Mais j'aimerais quand même faire une première lecture avec vous et que nous puissions réfléchir ce soir sur ce que nous dit la parole. Dans l'évangile de Luc, donc, au chapitre 18 et au verset 24. Luc 18, 24. Pendant que vous vous préparez, je voudrais simplement vous dire de quoi il va s'agir ce soir. J'aimerais qu'on puisse répondre à cette question, comment être sauvé? Comment être sauvé? Bien des gens cherchent des moyens d'être sauvés, de trouver la paix, comme il a été dit ce soir, de trouver l'amour, de trouver un véritable amour, non pas qui est éphémère, non pas qui déçoit, non pas qui tient un certain temps et qui après disparaît, mais un amour qui demeure, un amour véritable. Et en même temps, ces personnes-là, peut-être vous-même, moi le premier, j'ai cherché la joie, une joie qui n'est pas fonction des circonstances non plus, mais une joie qui demeure malgré les épreuves, malgré les difficultés. Et j'ai trouvé une réponse, c'est qu'il n'y a que en ayant l'assurance du salut qu'on trouve le vrai bonheur. Et donc nous allons arriver peut-être à répondre à cette question, en tout cas, c'est ce à quoi je vais tenter de faire avec vous ce soir. Donc dans Luc 18, verset 24, on voit qu'un jeune homme riche est venu voir Jésus, il lui a posé la question, que faut-il faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répond, ce jeune homme était riche, et il lui dit, voilà, est-ce que tu connais les commandements? Et alors ce jeune homme lui dit, oui, ben je les connais depuis ma tendre jeunesse, je les ai observés même, tout cela. Et puis Jésus lui pose quelques questions qu'il répond, il répond correctement. Puis Jésus lui dit, c'est bien, tu es bien, tu es proche de la vérité, de la solution. Et puis il lui dit une dernière chose, il dit, voilà, vends tous tes biens, donne-les aux pauvres, et puis suis-moi. Et ce jeune homme partit tout triste. Et Jésus répondit Jésus voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, et qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Comment être sauvé? Eh bien, à l'homme. Si Dieu n'était pas intervenu, si Dieu ne faisait pas quelque chose dans notre vie, à l'homme, ce serait impossible. Mais ce qui est impossible à l'homme, la bonne nouvelle, c'est que c'est possible à Dieu. Alors il y a un moyen pour être sauvé. Amen. Qui est d'accord avec ce qui vient d'être dit? Ça va pour l'instant? Amen. Dans Luc 18, au verset 1 à 8, il nous a raconté une autre histoire. Une veuve et un juge. Et Jésus finit par cela aussi, il dit, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? À ses élus. Il est parti parler des élus. Et j'aimerais prendre le premier point, c'est qu'il faut être élu. Comment être sauvé? Il faut être élu. Et quelqu'un, donc je réitère cette petite histoire que j'ai racontée il n'y a pas longtemps. Un jour, donc, il y avait un esclave qui avait un maître. C'était au temps de l'esclavage en Amérique du Nord. Et alors, il y avait cet esclave qui était là, et cet esclave était chrétien. Son maître était complètement athée, il ne croyait pas du tout en Dieu, et il taquinait, il embêtait son esclave avec des questions gênantes quant à l'évangile, quant à sa foi. Et l'esclave, lui fervent, lui solide, à chaque fois, il cherchait à répondre bien à son maître. Et un jour, son maître a voulu l'embêter en lui disant, mais donc toi, tu vas aller au paradis? Et l'esclave lui dit, oui, je vais aller au paradis, maître. Ben oui, tu crois en Jésus, donc tu vas aller au paradis, oui. Donc tu fais partie du peuple élu. À 15 reprises dans la Bible, dans le Nouveau Testament en tout cas, il est parlé des élus. Mais qui sont ces élus? Eh bien, c'est ceux que Jésus a choisis, ceux que Jésus va venir chercher pour les emmener au paradis. Alors il dit, donc tu fais partie de ce peuple élu. Et il dit, oui. Et le maître lui pose la question, et moi, est-ce que je peux être un élu? Est-ce que je suis un élu? Est-ce que je vais être élu? Et l'esclave a commencé à réfléchir. Il ne voulait pas se faire piéger par son maître. Il a réfléchi. Et puis, à un moment, il a prié le Seigneur, lui demander secours pour avoir une réponse qu'il fallait. Il pouvait se faire battre par son maître. Il a réfléchi et Dieu lui est venu en aide. Et il a commencé à lui répondre, mais je n'ai jamais vu quelqu'un être élu s'il n'était pas candidat. Donc, la première chose pour être sauvé, ce que j'aimerais noter, c'est qu'il faut être candidat. Il faut vouloir être sauvé. De la même manière qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, il n'y a pas plus perdu que celui qui ne veut pas être sauvé. Ça peut paraître bête, mais dans le monde, beaucoup de personnes refusent le salut de Dieu, refusent d'être sauvées. Ils ne réalisent même pas qu'ils ont besoin d'être sauvés. Tout ça parce qu'ils n'ont pas réfléchi à ce que disait la parole de Dieu. À un moment, Jésus se retrouve devant diverses personnes et leur pose cette question, « Veux-tu être guéri ?» Ou alors, « Que veux-tu que je te fasse ?» Dieu ne connaît-il pas tout ? Jésus n'est-il pas censé tout connaître ? À un moment, il se retrouve devant un aveugle et lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?»« Que je recouvre la vue, lui dit l'aveugle. » Mais ça peut paraître insensé, mais comment ça se fait que Jésus n'a pas discerné que cet homme était aveugle ? Mais ce n'est pas ça. C'est que pour Jésus, il est important qu'on manifeste ce désir d'être sauvé. Ce désir. Et il faut être candidat pour être sauvé, pour être élu par le Seigneur. Tous peuvent être élus. Il suffit de le vouloir, d'être candidat. Il n'y a pas de concurrence, ce n'est pas un concours pour rentrer dans le ciel. Il suffit de le vouloir et de continuer. Par ce deuxième point, eh bien justement, il faut faire le point dans sa vie. La première chose, il faut être candidat. Et puis aussi, je pense que c'est bien de vouloir être sauvé, mais à des moments dans la vie, dans notre vie, il faut faire le point. Il faut faire une pause. Et dans la Bible, nous remarquons qu'il est dit à 74 reprises le mot « pause ». Pause. Faire une pause. S'arrêter. 71 fois dans les livres des psaumes, 3 fois dans les livres d'Habacuc, il est dit « pause ». Ce mot « pause ». Et combien de fois ce monde nous entraîne à aller de plus en plus vite, on est dans un mouvement, dans un rythme frénétique, le monde nous empêche de réfléchir et à des moments, bien des fois, la Bible nous dit « fais une pause, arrête-toi ». Et arrête-toi pour quoi faire ? Eh bien, pour réfléchir. Pour réfléchir. Dans toute la parole de Dieu, la Bible, on voit que à chaque fois qu'elle dit, qu'elle prononce ce mot de réfléchir, de s'arrêter pour réfléchir, elle le dit d'un bon sens, c'est pas mal de réfléchir. Le monde nous dit, fais vite, choisis vite, signez vite là, faites un contrat, vous inquiétez pas, ne réfléchissez pas, vous risquez de perdre du temps. La Bible ne dit pas ça. Elle dit de réfléchir. Elle dit de prendre un temps, de prendre une pause. Je ne dis pas de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ce n'est pas ça. Puisque là, si je remettais à demain les choses, c'est que je ne réfléchis pas, je dis plus tard. Ce n'est pas ce que je veux dire. Il faut, à un moment, faire une pause dans notre vie. Et pas qu'à un moment. Souvent, tous ce soir, j'aimerais que nous fassions une pause. Que nous nous posions et que nous réfléchissions. Dans Proverbe 16, 20, il est dit ceci. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Il est bon de s'arrêter parfois et de réfléchir. De réfléchir sur les choses. Et quelles sont ces choses ? Eh bien, le bonheur, comme je l'ai dit avant, on ne peut le trouver que quand on a l'assurance d'être sauvé. L'assurance du salut. Ça peut paraître flou pour l'instant, mais le vrai bonheur, c'est quand on réfléchit sur les choses spirituelles et qu'on prend bien sûr des bonnes décisions. La première chose sur laquelle il faut réfléchir, il y a des priorités comme ça dans la vie. J'aurais pu faire une expérience ce soir, vous connaissez peut-être cette expérience, on prend un vase avec une certaine forme, on met de côté du sable, on met à côté des cailloux et on met à côté des petits galets un peu plus gros. Et si je commençais par mettre le sable, ensuite les cailloux et ensuite les galets, ça ne rentrerait pas. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça ne rentrerait pas, le vase, la somme de tous ces objets, de toutes ces choses, dépasserait le vase. Mais si je commence par les gros galets, les petits cailloux et après le sable, ça rentre, ça ne dépasse pas. J'aurais dû faire l'expérience, j'y ai pas pensé plus tôt, mais il y a des priorités. D'ailleurs, quand Dieu parle, quand il y a des choses marquées dans la parole de Dieu, il est bon de s'arrêter pour regarder l'ordre des mots, l'ordre des choses que Dieu a dites. Par exemple, quand on lit ce verset, « Il faut que tu croisses et que je diminue. » Bien souvent, on cherche à diminuer pour que Dieu croisse en nous. Je parle peut-être aux chrétiens. Bien souvent, on croit qu'il faut d'abord régler les affaires dans notre vie pour que Dieu puisse nous parler, pour que notre communion avec Dieu puisse augmenter. Eh bien, on se trompe d'ordre. C'est en s'approchant de plus en plus de Dieu, c'est en cherchant de plus en plus sa face qu'on va se détacher plus facilement des choses qui nous lient et qui nous empêchent d'aller de l'avant. Il est bon de regarder les choses avec priorité. Et la première chose sur laquelle nous devrions réfléchir, qui que l'on soit, C'est sur l'affaire de la croix. Qu'est-ce que c'est que cette croix? Qu'est-ce que c'est que ce symbole-là, ces gens qui portent des pantentifs avec une croix? Est-ce que c'est vraiment là l'utilité? Est-ce que c'est vraiment là l'importance, le pendentif? Qu'est-ce que c'est au final cette croix dont on parle bien souvent, qu'on voit sur la façade de certains bâtiments? Qu'est-ce que c'est cette croix? Je pense que si on commence par réfléchir sur le sens de cette croix, tout le reste peut changer dans notre vie. Tout peut basculer. Et la première chose alors que j'aimerais dire quant à cette croix, c'est que c'est un châtiment. C'est une condamnation. Dans Ésaïe 53, au verset 5, il nous est dit « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Et de qui on parle? Mais de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort sur une croix, parce qu'il y a eu d'autres croix. La Bible, par exemple, on le chantait cet après-midi, nous parle qu'il y a eu 3 croix sur le mont Golgotha. 2 pour 2 brigands, ils avaient la peine de mort pour ce qu'ils avaient fait. Ils avaient fait des choses horribles et ils méritaient cette mort-là. Et il y en avait un au milieu, un innocent. C'était Jésus-Christ. Mais pourquoi alors parle-t-on de châtiment? Pourquoi parle-t-on de condamnation? Eh bien, la Bible nous dit que c'est le salaire du péché qui est retombé sur Jésus. Car dans Romains, il nous est dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et nous, on néglige. Alors, on dit, mais non, mais le péché, c'est rien. J'aimerais vous dire que le péché, c'est une rébellion contre Dieu. C'est manquer le but. Une rébellion, c'est manquer le but. C'est manquer un plan fabuleux. Quel plan? Celui de Dieu pour l'être humain. C'est Dieu qui a fait l'homme, la Bible nous dit. La Bible nous enseigne qu'il a créé l'homme et qu'il a voulu avoir une relation avec lui. Il l'a placé dans un jardin des délices, le jardin d'Éden. Et le péché est entré. Le diable a réussi à tenter Ève, qui a proposé du fruit défendu à son mari, Adam. Et on voit que le péché est entré, car Dieu avait dit, vous mangerez de tous les arbres sauf de celui-là. Je ne veux pas m'attarder sur cette histoire, mais en tout cas, le péché est entré. J'aimerais vous dire que le péché, c'est une cassure, c'est une brisure, c'est une panne dans le plan divin. Dieu avait un plan, Dieu avait eu un désir dans son cœur, c'est garder, avoir, entretenir une relation intime avec sa créature, l'être humain. Et le péché étant entré, il y a un mur qui s'est dressé entre l'homme et Dieu. Ce mur porte un nom, c'est le péché. Et il y a une séparation maintenant entre Dieu et les hommes. Le péché, c'est un échec dans la vie de l'homme. Et ce châtiment que méritait le péché, cet échec, ce châtiment, c'est Jésus qui l'a porté. Il nous est dit aussi que la croix, c'est un sacrifice d'expiation dans 1 Jean 4, 10. Il dit que Dieu a fait de son fils une victime expiatoire. L'expiation, c'est quoi? Expier, c'est réparer. C'est pour ça que je me suis attardé sur le péché qui est une cassure, une brisure, une panne. Et Jésus, en portant ce châtiment, en portant la condamnation qui nous revenait, a réparé cette erreur, a réparé cette panne qui nous empêchait de nous approcher de Dieu, a réparé cette cassure dans le plan divin. Expier, c'est réparer. Jésus a été celui qui a porté la condamnation à cause de nous. Il nous est dit que Jésus a été une victime de substitution. En fait, la Bible nous enseigne que c'est nous qui devions mourir à cause de nos péchés. Et Jésus a pris le poids de nos péchés. Il s'est chargé de nos iniquités. Il s'est même chargé, la Bible nous dit, de nos douleurs, de nos fardeaux. Et il les a portés. Oh, quelle bonne nouvelle! Jésus a payé à ma place et aujourd'hui, je peux être sauvé. Voilà le sens de la croix. Jésus a été cloué à ma place, à notre place. Il a supporté le châtiment que nous méritions. Et souvent, je me suis posé cette question, est-ce que la croix ressemble pas un peu et pas un peu un prémisse de l'enfer? Si on s'y penche un peu, à la croix, qu'est-ce qu'il y a eu? Pendant plusieurs heures, il y a eu des ténèbres. Il y a eu des ténèbres. En enfer, il nous est dit que c'est les ténèbres. Pas de lumière, puisque la lumière, c'est Dieu. Jésus est la lumière lui-même. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, je suis la lumière du monde. Et là, il n'y aura pas Jésus en enfer. Ce sera les ténèbres. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi sur la croix? Donc les ténèbres pendant des heures sur toute la surface de la terre. Il y a aussi la douleur. L'enfer, c'est aussi un lieu de douleur, un lieu de souffrance. Jésus lui-même pouvait dire, mais Père, pourquoi m'as-tu abandonné? La croix, c'était un lieu où Jésus a été abandonné de Dieu. Jésus, Dieu, il nous est dit qu'il a dû détourner son visage parce que Jésus, portant nos péchés, eh bien, il a été fait péché pour nous. Dieu ne peut pas voir, ne peut pas supporter le péché. Il faut d'abord que nous soyons lavés pour qu'il puisse poser ses regards sur nous, pour qu'il puisse nous regarder avec amour, avec tendresse. Parce que sinon, Dieu ne peut que poser un regard de colère, de dégoût, de tristesse sur le péché. Mais il aime le pécheur, alors il veut le sauver. À la croix, il y a eu l'angoisse. Il y a eu la mort, puisque Jésus n'a pas seulement été cloué, et puis après il a continué, il est descendu. Non, non, il est allé jusqu'à la mort. Lui qui pouvait descendre de la croix, qui pouvait appeler des anges pour être libéré, il a préféré subir ce châtiment qui était pour nous. Il a supporté la honte aussi, la honte. C'est un peu comme l'enfer. Ça nous révèle un petit peu sur ce que sera l'enfer. Cette séparation d'avec Dieu. Voilà la première chose sur laquelle on doit se pencher. Qu'est-ce que la croix ? C'est quelque chose de pas beau, qui donne pas envie. C'est quelque chose qui peut-être gêne quand on en parle, c'est pas agréable. Parce que c'est un moment désagréable, vraiment, ça a été désagréable pour Jésus. C'est désagréable pour moi, parce que je réalise que c'est moi qui aurais dû être à la croix. Jésus a porté mes péchés. Et pour vous peut-être qui entendez cela ce soir, ça peut être désagréable, ça peut être gênant. Ne voyez pas ça comme quelque chose de bizarre. Comprenez que c'est normal, que la croix, c'est quelque chose qui n'est pas facile ni à prêcher, qui n'est pas facile ni à accepter, ni à comprendre. Mais il faut réfléchir sur ces choses. C'est en commençant par réfléchir sur ces choses que nous allons trouver le bonheur. La croix, Jésus qui a réparé nos erreurs. Amen. Et quand Dieu nous regarde, il ne voit plus ce que nous étions, comme dit ce chant. Mais il voit Jésus, il voit le sang de Jésus qui nous a lavés, nous sommes couverts, Dieu ne voit plus nos péchés. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été effacé, il a été détruit. Amen. La deuxième chose sur laquelle je voudrais que nous réfléchissions et sur laquelle il est bon de réfléchir juste après, c'est émoi dans cette affaire. La croix ça veut dire ça, ok, mais émoi, où j'en suis? Où j'en suis maintenant? Où je vais? Jésus a supporté ce châtiment pour nous éviter l'enfer. C'est une bonne nouvelle, la croix. Même si c'est désagréable, même si ça fait frémir, même si ça gêne, c'est quand même une bonne nouvelle. Parce que puisqu'il y a eu la croix, je peux espérer aller dans le paradis, moi qui ne le méritais pas. La Bible dit que nous sommes tous pécheurs. Il n'y a personne qui aurait mérité le paradis si Jésus n'était pas monté sur la croix. Mais puisqu'il l'a fait, nous avons cette possibilité. Il faut être candidat. Il faut le vouloir. Et il faut se poser la question, mais où j'en suis? Est-ce que vous avez accepté Jésus-Christ comme étant cette victime expiatoire, celui qui a réparé vos erreurs? Ou est-ce que vous refusez? Êtes-vous candidat à ce cadeau de Dieu, ce salut? Ou est-ce que vous dites, non, ce n'est pas pour moi, je n'en veux pas, moi je préfère m'expliquer avec Dieu de vive voix. J'aimerais vous dire, par amour, par affection pour vous ce soir, et parce que Dieu le dit aussi, qu'il ne faut pas attendre, que dès aujourd'hui, il faut réfléchir sur ces choses. C'est des questions embarrassantes, on voudrait les mettre de côté. Mais il faut se pencher sur ces choses, car celui qui s'y penche trouve le bonheur. Il faut se rappeler que même si c'est un moment désagréable, un moment qui nous culpabilise un petit peu, qui nous met en face de nos responsabilités, eh bien c'est un moment qui peut aboutir sur une joie et une paix profonde. Amen. Alors, où vas-tu, mon ami? Où allez-vous ce soir? Vers où vous dirigez-vous? Allez-vous selon vos propres voies, comme la Bible dit? Suivez-vous vos propres voies? Faites-vous votre vie comme bon vous l'entendez? Ou est-ce que cette petite voix dans votre cœur vous dit, et vous allez l'écouter, vous dit que vous allez sur le mauvais chemin? Que si vous ne demandez pas pardon, si vous ne réglez pas cette affaire ce soir, eh bien un jour il sera peut-être trop tard pour vous. Par amour, Dieu nous avertit. Amen. Comment faire pour vraiment regarder et savoir où on en est. Peut-être quelqu'un ce soir se dit, mais moi je ne sais pas trop où j'en suis. J'ai beau regarder en moi, je vois rien de trop mal. D'ailleurs, tout le monde fait pareil. Tout le monde fait pareil, j'ai pas l'impression d'être plus mauvais qu'un autre. J'aimerais vous dire qu'il est important de demander à Dieu de sonder nos cœurs. C'est David qui disait, sonde mon cœur, Seigneur. Il n'y a que Dieu qui peut dire si on est sur la bonne voie ou pas. Et il nous a donné un instrument pour savoir si on va vers le paradis ou si on s'égare. Cet instrument, c'est sa parole. Sa parole, c'est la vérité. La Bible nous dit qu'elle est la vérité. Elle est la vérité. Et toute, toutes les réponses à nos questions, tous les repères, le fil à plomb, c'est vraiment la parole de Dieu. Vous savez, vous connaissez en maçonnerie ce que c'est que le fil à plomb? Oui, les hommes peut-être plus. Non, les femmes aussi, ça va. Le fil à plomb. Non, je dis ça, mais quand j'ai commencé à travailler en mécanique poids lourd, j'ai appris à utiliser divers instruments dont j'avais jamais entendu parler. Le cordeau, vous savez, ce long fil de laine comme ça, eh bien qui est là, qui est très léger. On le trempe dans la craie, par exemple. Et comme il est léger, on peut le tendre facilement sur des longueurs vraiment grandes. Par exemple, on pourrait se mettre au bout de la salle, on le tirerait, on le tendrait, on le colle contre le mur, on tire un petit coup sur le fil, on le lâche, et quand il vient taper le mur, il laisse une trace et un long trait bien droit, le cordeau. C'est sympa. Il y a aussi le fil à plomb. Avant, on n'avait pas les niveaux comme aujourd'hui. On ne savait pas trop faire ça, peut-être. Il n'y avait pas même le plastique, la technologie. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait un plomb en bas, ou un caillou, quelque chose, au bout d'un fil. Le plomb tendait bien le fil. On le laissait au bord du mur ou au bord de ce qu'on voulait faire. Et on attendait qu'il arrête de bouger parce qu'il balance. Et quand il s'arrête, même s'il y a un petit peu de vent, le plomb le tient bien droit, bien vers le sol, et c'est bien droit. Et du coup, on a un niveau bien droit. Et on sait si on monte un mur tordu ou droit. Vous voyez, il y a des instruments comme ça, qui sont utiles en maçonnerie, en diverses choses. Et pour nous, ce fil à plomb que Dieu nous a donné, ce guide, c'est la parole de Dieu. Et dans Psaume 119, au verset 105, comme nous l'a rappelé Nathanaël mardi soir, il est dit: ta parole est une lampe à mes pieds, vous connaissez la suite, et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est un guide, la parole de Dieu. C'est ce que Dieu nous a laissé pour marcher droit, pour savoir si on s'égare, si on se trompe de chemin. C'est un peu une boussole, j'aimerais dire aussi. C'est comme une boussole qui nous indique toujours le nord. Toujours les yeux fixés vers Jésus-Christ. Amen. Qui nous amène droit vers le paradis aussi. C'est la parole de Dieu. Et si on se pose la question, mais où j'en suis, le meilleur moyen de savoir où on en est, c'est de lire la Bible, qui est comme un miroir, et qui va nous montrer, oh, et voilà comment je suis. On ne se met pas devant le miroir le matin quand on va travailler, ou quand on sort de la maison, on regarde si on n'a pas une mèche qui rebique, quelque chose. Et si on n'avait pas de miroir, on ne pourrait pas savoir. Si on n'a pas un bouton, quelque chose, j'en sais rien. Eh bien, pareil, la Bible, c'est un miroir, et ça nous aide à voir notre état. C'est ce que la Bible dit d'elle-même. Elle est une lumière sur notre sentier, une lampe à nos pieds qui nous guide et qui nous éclaire. Amen. Psaume 119, au verset 56, il est dit: c'est là ce qui m'est propre, car j'observe tes commandements. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi selon ta promesse. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Amen. Vous voyez, cet homme qui a écrit ce psaume-là, il le précise que c'est ce qui lui est propre. Il aime bien se reconnaître en ça, c'est qu'il suit les préceptes, les ordonnances de Dieu. Il aime suivre les ordonnances de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'au bout, il y a le bonheur, il y a la paix. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Est-ce que nous, chrétiens, nous avons toujours cet amour pour les paroles de Dieu, ou est-ce que on vient à l'église parce que on y est obligé, parce qu'on se dit, mais il faut faire notre devoir, ou est-ce que c'est par amour pour sa parole que l'on vient? Est-ce que le matin ou le soir, on lit la Bible par amour pour ce qu'elle nous dit, pour ce que Dieu veut nous dire, en y cherchant des trésors, puisque c'est un trésor? C'est un coffre dans lequel on peut puiser des trésors tous les jours. À chaque fois qu'on ouvre la Bible, on peut puiser un trésor. Est-ce que c'est dans cette optique-là qu'on lit la Bible, ou est-ce que c'est pour apaiser notre conscience? À chacun de sonder et de savoir où il en est. Amen. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Puissions-nous dire la même chose que cet homme. Amen. Deuxième chose, donc, on a dit, premier, eh bien, c'est être candidat. Deuxième chose, c'est réfléchir, faire une pause, savoir où on en est. Et après qu'on sait, quand on sait où on en est, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas une petite idée? Troisièmement, il faut prendre des résolutions. Eh bien, c'est bien de savoir où on en est. C'est bien de savoir les choses, mais il faut les appliquer dans notre vie pour qu'elles puissent faire leur effet. C'est pas vrai? Je pense. Si j'ai une recette, je sais comment on fait un bon gâteau, est-ce que je vais pouvoir le goûter, en savourer la saveur, ou est-ce que il faut d'abord que je puisse le préparer, le gâteau. Si j'ai la recette, c'est bien, mais il faut que je mette la main à la pâte, comme on dit. Il faut que j'applique les choses qui me sont dites. Et il faut prendre des résolutions. Job, au chapitre 22 et au verset 28, dit « À tes résolutions répondra le succès. » Qui veut du succès ce soir? Amen. C'est un petit amen, il n'y a pas beaucoup de succès à l'horizon. Non. Tous dans notre cœur, je pense, qu'on est là et qu'on dit « Oui, moi je veux du succès dans ma vie. Je veux réussir. Je ne veux pas échouer ma vie. » Vous savez qu'on peut réussir sa vie et échouer sa vie. Et ce n'est pas en fonction de notre compte en banque qu'on va savoir si on a réussi notre vie ou pas. Puisque notre compte en banque ne nous suit pas dans le paradis, ou en enfer, dans le ciel, ou après notre mort. Nos biens, le nombre de maisons que l'on a, ne nous suivront pas. C'est pour ça que Jésus dit, il sera dur à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Il est même plus facile à un chameau de rentrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Et quand il est parlé du trou de l'aiguille, il n'est pas parlé d'une aiguille à coudre. Hein. Il est parlé, alors on pense qu'il est parlé d'une petite porte qui était dans les murailles. Il y avait des grandes murailles et il y avait des petites portes qu'on gardait ouvertes la nuit. Les grandes portes étaient fermées la nuit pour que l'ennemi puisse pas rentrer, pour garder la ville. Mais il y avait quand même des petites portes qui étaient gardées ouvertes. Et les chameaux, quand les gens rentraient trop tard la nuit, ils étaient obligés de décharger les chameaux. S'ils étaient chargés de tous les vivres, tout ce qu'ils transportaient, ils étaient obligés de tout décharger. Les chameaux étaient obligés de se mettre à genoux, puis d'avancer comme ça pour passer par le trou de l'aiguille. Ce qu'on appelait l'aiguille, c'était la petite porte. Et après, on chargeait tout le chargement, le passait par la porte petit à petit, et après on le remettait sur les épaules du chameau. En tout cas, c'est une des hypothèses que l'on pense, mais il n'est pas parlé de l'aiguille à coudre, d'accord? Donc il est plus facile à un chameau de rentrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Sinon, il serait impossible à un riche de venir dans le royaume des cieux, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Si déjà pour un chameau de rentrer dans le petit trou d'une aiguille, ça serait bien dur. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas des riches qui peuvent être sauvés? Est-ce que c'est que pour les pauvres l'évangile? Ben non, c'est pour les riches aussi. Donc il faut prendre des résolutions. Résolutions. Et dans ces résolutions, j'aimerais vous parlez de deux A, A majuscule, deux A. Un A qui vient, premièrement, de la repentance. Dans Actes 26-20, Paul pouvait dire ceci, on va lire au verset 19. Paul est en train de parler de ce qu'il a fait, de prendre sa défense auprès du roi Agrippa. Il est accusé et il passe devant Agrippa pour s'expliquer sur ce qu'on lui reproche. Il est en train de passer presque en jugement, c'est ce qu'on pourrait dire. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Amen. Qu'est-ce qui est important? Eh bien, c'est la repentance et la conversion. Dans Actes 3, au verset 19, acte chapitre 3, et au verset 19, acte 3, 19, il nous est dit ceci, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » On le répète, acte 3, 19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Il faut passer, quand on a compris l'état où on était, quand on a compris, quand on a réfléchi sur notre état, quand le Saint-Esprit a eu la porte ouverte dans notre cœur pour pouvoir nous convaincre de péché, eh bien, il faut alors passer par deux étapes, la repentance et la conversion. La repentance, pourquoi deux A? Eh bien, c'est l'abandon de notre ancienne manière de vivre. En fait, la repentance vient d'une tristesse selon Dieu. Dans 2 Corinthiens 7, 10, c'est ce qu'il nous est dit. Que la repentance vient d'une tristesse selon Dieu. Quand Dieu vient nous révéler, nous montrer par sa parole, par la prédication ou par un moment d'intimité avec lui, quand il vient nous révéler qui on est, il y a une tristesse qui se passe dans notre cœur. Cette tristesse, c'est de voir que on est pécheur, on est perdu et qu'à cause de nous, Jésus a dû mourir à la croix. Parce que nous devions mourir à cause de nos péchés, eh bien Dieu, c'est par amour pour nous, a choisi d'envoyer son fils pour qu'il meure à notre place. Ça doit nous attrister, ça c'est sûr. Nous attrister de dire, mais à cause de moi, quelqu'un est mort. Et pas n'importe qui. À cause de moi, Dieu a dû envoyer son fils unique pour qu'il meure à ma place. Est-ce que vous qui avez des enfants, vous auriez donné votre fils pour vos amis? Je pense pas. Est-ce que ou votre fille? Est-ce que vous qui avez des enfants, vous aurez donné votre fils ou votre fille pour vos ennemis, ceux qui étaient encore vos ennemis? Je pense pas non plus. Dieu l'a fait et il a vu son fils être fouetté, être moqué, être frappé à cause de nous. Voilà pourquoi une tristesse, selon Dieu, est dans notre cœur, rentre dans notre cœur quand on comprend qu'on est pécheur. Et du coup, cette tristesse nous pousse à la repentance. Et la repentance, c'est regretter nos péchés. Je regrette profondément au point de changer de conduite. Je vais changer de conduite. Et de ce fait, je vais abandonner mes anciennes voies, mon ancienne manière de vivre. Je vais abandonner la manière vaine de vivre que j'avais autrefois. Autrefois, je vivais que pour moi, je ne pensais qu'à moi. Eh bien, je décide d'abandonner ces choses. Je décide de renoncer à ces choses parce que j'ai compris que ce sont des choses mauvaises qui me conduisaient en enfer et qu'à cause de cela, Jésus a dû payer de sa vie. Romains 2, verset 5 dit « La bonté de Dieu nous pousse à la repentance ». Pourquoi on se repent? Parce qu'on réalise que Dieu est bon. C'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Et alors quand on se repent, qu'est-ce qu'on fait? On demande pardon à Jésus. C'est la moindre des choses. Quand quelqu'un a payé à notre place, qu'il a souffert à notre place, et qui tout cela pour qu'on soit sauvé, eh bien on lui demande pardon. Si je refuse de demander pardon, je ne peux pas être sauvé. Je demande pardon à Jésus, pardon à Dieu, parce qu'à cause de mes péchés, il a donné son Fils unique. Et j'abandonne mes idoles, j'abandonne mes mauvaises pratiques. Les idoles, c'est tout ce qui prend la place de Dieu. C'est simple. C'est tout ce qu'on met avant Dieu. Ça peut être la télévision, ça peut être une statue, peu importe. Les idoles, c'est tout ce qui prend la place de Dieu et de sa volonté. Tout ce qui passe avant lui. Donc je quitte mes voies, j'abandonne mes voies. Ah, comme abandonner. C'est la repentance. C'est bien d'abandonner ses mauvaises voies. Mais vers où on va, du coup? Eh bien, la conversion, c'est j'adopte une nouvelle conduite. Ah, comme adopter. J'adopte une nouvelle conduite qui m'est dictée dans la parole de Dieu. J'adopte cette nouvelle conduite qui m'est conseillée par Jésus et dont Jésus a donné l'exemple. Jésus a donné un exemple et il nous appelle à le suivre, à faire comme lui. Pourquoi cet homme riche est parti tout triste? Pourquoi il n'est pas parti joyeux? Pourtant, il avait la réponse à sa question. Parce qu'il a refusé de laisser de côté, d'abandonner ce qui prenait la place de Dieu, ses richesses, son idole. Il a refusé ça. Il a dit non, il a pas accepté d'abandonner, de vendre ses biens. Et du coup, il est reparti tout triste. On peut repartir ce soir heureux ou tout triste. Peut-être quelqu'un s'est engagé avec Dieu et s'est converti. Il a fait toutes ses démarches. Et puis aujourd'hui, il a besoin tout à nouveau de se dire, de réaliser que dans sa vie, des choses ont pris la place de Dieu. Des choses sont venues avant Dieu. Il a besoin de faire le point et de dire, non, à nouveau, Seigneur, je te demande pardon, je me repens, je veux abandonner ces choses. Je veux te mettre en premier dans ma vie. J'abandonne les choses anciennes et maintenant j'adopte des choses nouvelles parce que Dieu m'a donné une nouvelle vie. Une vie purifiée, une vie qui conduit normalement à la vie éternelle, qui conduit au paradis. Cette vie, ces choses, cette conduite qu'on doit adopter, elle est dictée par la parole de Dieu, par la Bible. C'est un engagement à suivre Jésus. Avant, on était sous l'illusion, on écoutait Satan. Vous savez que Satan, c'est le père du mensonge. Et on marchait comme ça, on croyait très bien, on croyait qu'on pourrait s'expliquer avec Dieu, avec nos mots à nous en face. Et on était dans l'illusion, on croyait que si on faisait un peu de bien de temps en temps, on allait mériter le salut. Eh bien, on suivait en fait celui qui nous trompait. Ah, il avait une apparence de lumière, c'était des belles choses qui séduisaient. Mais on suivait le péché, on marchait dans le péché. Et aujourd'hui, la conversion, c'est « je suis Jésus ». Je ne vais plus dans la même direction. Il y avait un chemin qui menait vers l'enfer, un chemin qui menait vers le paradis. La conversion, c'est « j'ai compris que ce chemin-là n'est pas pour moi et j'en prends un autre ». Jésus disait « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Satan est le père du mensonge, Jésus c'est la vérité. Que nous puissions le choisir. La conversion est indispensable. Dans Matthieu 18, 3, il nous est dit ceci. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Certains se sont arrêtés à leur repentance. Ils ont dit, moi j'ai demandé pardon à Dieu, maintenant j'ai abandonné les anciennes voies, mais je fais ce que je veux. Je marche comme je veux. Maintenant, j'ai compris quelque chose. Eh bien, je vis ma vie un peu comme je veux. Je suis non pratiquant. Sauvé, mais non pratiquant. Eh bien, il vous manque la conversion. Il vous manque cet engagement envers Dieu. Vous n'avez pas adopté le bon chemin. La conversion nous donne une vision plus claire. Dans 2 Corinthiens 16, il est dit que lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Avant de se convertir, beaucoup de personnes continuent à ne pas comprendre la parole de Dieu, même après s'être repenti, avoir demandé pardon à Dieu. C'est parce qu'ils refusent d'obéir à Dieu. Du coup, la Bible leur est voilée. Ils ont du mal à la comprendre. Ils la lisent, mais c'est trop dur. C'est trop dur, alors ils abandonnent. Eh bien, c'est parce qu'ils ne se sont pas réellement abandonnés dans les mains de Dieu. Au contraire, ils ne se sont pas vraiment engagés. Ils n'ont pas vraiment adopté comme ligne de conduite, comme fil à plomb, la parole de Dieu. Et alors, entre la repentance et la conversion, dans Marc 16, il nous est dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Il nous est dit « Croire, c'est quoi ? C'est la foi. Croire, c'est décider. La foi, c'est décider de croire ce que la Bible dit. Décider de croire ce que la Bible dit. Souvent, on croit que la foi, c'est un sentiment. Mais je ressens rien, j'ai rien, j'ai pas d'émotion, je ressens rien, il me manque quelque chose. Mais la foi, c'est plus une décision qu'un sentiment. La foi, c'est je décide de croire ce que la Bible dit. Et si au début, ça me paraît un peu flou, si vraiment je m'engage réellement de tout mon cœur, les choses vont se dévoiler petit à petit. Et les choses vont s'éclaircir, ma foi va grandir et je pourrai ressentir des choses de plus en plus. Donc la foi a besoin, c'est l'équivalent de la repentance, est accompagné de la repentance. Je ne peux pas demander pardon pour quelque chose en quoi je ne crois pas. C'est pas possible. Et la repentance, c'est-à-dire l'abandon de mon ancienne voie, c'est une preuve visible de ma foi. Celui qui a la foi et qui n'abandonne pas ses idoles, qui n'abandonne pas ses mauvaises voies, eh bien il a une foi qui ne sauve pas, il a une mauvaise foi. Il y a besoin que dans la vie, dans votre vie, il y ait des choses qui soient visibles, qui soient publiques. Comme Jésus est mort publiquement, il faut que nous aussi, on abandonne nos mauvaises voies et que ça se voit publiquement. Quelqu'un pourra dire, ah tiens, lui il mentait avant et il ment plus. Tiens, lui il volait et il ne vole plus. Il a même ramené ce qu'il avait volé ou il a remboursé ce qu'il avait volé. Etc. Telle personne s'énervait, elle se mettait en colère et elle ne se met plus en colère. La foi c'est une repentance au point, un regret, au point d'abandonner les anciennes choses. Et Marc met en parallèle avec la conversion, le baptême. Le baptême, cet engagement d'une bonne conscience devant Dieu. C'est la preuve visible, publique aussi, de notre engagement, de ce qui se passe à l'intérieur, dans notre cœur et qui est caché. Dieu a besoin qu'on manifeste, qu'on soit candidat, qu'on manifeste aussi physiquement, visiblement, notre foi, notre engagement. Et c'est à ces conditions-là que nous serons sauvés. Parce que Jésus dit, celui qui a honte de moi sur la terre, j'aurai honte de lui aussi devant mon Père. Dans le ciel. Alors, il faut que ces choses se manifestent à l'extérieur. Et franchement, quand on est convaincu, quand on est touché par le Seigneur, on n'a pas de mal à ce que ça se voit à l'extérieur, dans notre vie. C'est presque naturel. Ça se fait sans effort. Et dans la parole de Dieu, il dit que les commandements ne sont pas pénibles. Eh bien, de fond, on pourrait dire, comment ça ? Écoutez, obéir à la Bible, c'est pas pénible. Eh oui, mais si c'est pénible, c'est qu'il nous manque de l'amour. Alors, faut pas s'arrêter là. Il faut prier au Seigneur pour que nos sentiments augmentent envers lui, pour que notre foi grandisse, pour que notre engagement soit plus sincère avec lui. Et Dieu, il nous aide. Il n'est jamais trop tard, il n'y a jamais de désespoir avec Dieu, il n'y a que de l'espoir. Dieu veut renouveler cet espoir. Et tout cela, c'est bien si on l'a fait, mais il faut demeurer, il faut persévérer. Matthieu 10, 22 dit, « Celui qui persévérera sera sauvé. » Amen. Psaume 119, 106, juste après le verset 105, il nous est dit cela, j'ai voulu le noter, le relever. Donc 105, c'est « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et le 106, cette personne dit quelque chose de clair. Elle dit « Je le jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. » Amen. Puissions-nous dire « Seigneur, je m'engage avec toi. » Et peut-être dire comme lui « Je le jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice, parce que je sais que ta parole, si je réfléchis sur ce qu'elle me dit, si j'observe ses commandements, si non seulement je réfléchis, mais je prends des résolutions pour lui obéir, elle me conduira tout droit vers le bonheur. Ce soir, peut-être ce qu'on a partagé, peut-être un peu dur, peut-être peut faire réfléchir ou tout simplement être dur à accepter. Mais c'est cela qu'il faut faire. Il faut être volontaire. Qui veut être sauvé? Si vous n'avez même pas réalisé que vous avez besoin d'être sauvé, vous avez besoin que Dieu vous touche. Et vous pouvez faire cette prière. Seigneur, touche mon cœur, ouvre-moi les yeux sur mon état. Réfléchir sur son état. Être candidat, réfléchir. Réfléchir sur vraiment ce que signifie la croix. Sur le point, faire le point sur là où j'en suis, sur mon état personnel. Et troisièmement, prendre les résolutions en conséquence. Amen. Tout cela au regard de la parole de Dieu. Lisez la Bible. Des religions, des hommes, des femmes, le diable lui-même ne veut pas que vous lisiez la Bible, que nous lisions la Bible. Le diable, l'ennemi de nos âmes, l'ennemi de Dieu, et même les hommes, et c'est bizarre, même des religions refusent que nous lisions ce trésor, cette lettre d'amour qui n'est pas là pour nous condamner, nous accuser, mais pour nous montrer qu'il y a besoin d'être sauvé, qu'il ne faut pas rester dans l'état où nous sommes. Et l'ennemi est là, les hommes sont là pour vous empêcher de lire. Vous-même, vous pouvez être découragé. Mais Dieu attend une chose, c'est que vous demandez pardon. Dieu attend une chose, c'est que vous vous engagez avec lui. Comme quelqu'un qui marche dans le noir, je me souviens un jour j'étais là, et je voulais aller dans une cave, il faisait tout noir. Comme quand je ferme les yeux, il faisait noir et j'étais là, je cherchais à tâtons, il n'y avait aucune lumière, le courant était coupé. Et j'avais besoin de prendre un vélo qui était loin dans la cave. Il y avait plusieurs portes à traverser, des couloirs, droite, gauche, et je ne connaissais pas les lieux. Et j'avançais à tâtons. Et d'un coup, quelqu'un que je connaissais m'a dit, « Jérémy, j'ai entendu cette voix. » J'ai dit, « Oui. » Il m'a dit, « Tiens, je te donne la main, prends ma main. » Et il m'a pris la main, lui connaissait les lieux, et il m'a amené. Même si moi, j'y voyais rien, il me dit, « Attention, il y a une marche. Attention, on va à droite. Attention, on va à gauche. » Et même s'il faisait tout noir, même si j'y voyais rien, lui connaissait le chemin. Et il m'a amené à bon port. J'ai pu prendre ce vélo et aller où je devais aller. C'est ce que Dieu veut faire avec nous. Si on voyait tout clair, on aurait peut-être peur par les chemins par lesquels nous devrions passer parfois. Mais Dieu est plus sage encore que ça. Il nous dit, « Ne t'inquiète pas, je veille sur toi. Je suis un bon berger, je veux l'être pour toi. Si tu acceptes d'être comme ma brebis, ah, ma brebis, ça paraît un peu humiliant d'être la brebis de quelqu'un. Moi, une brebis, non. Moi, je veux être un loup. C'est ce que le monde veut que nous soyons. Un loup, quelqu'un qui dévore les autres, qui s'impose. Dieu dit, si tu veux être sauvé, sois ma brebis. Aie confiance en moi. Je t'amènerai là où il faut, dans des pâturages verts. Là où il y aura de la paix, ce sera paisible. Même si autour de toi il y a la tempête, tu seras en paix parce que tu sauras que je veille sur toi. Même s'il fait noir autour de toi, tu ne sais pas où tu vas, tout a l'air flou dans ta vie. Ne t'inquiète pas, moi j'y vois. Je suis un Dieu qui voit et je te conduirai au bon port. Je te conduirai au paradis. Il suffit de saisir sa main. Saisissez sa main ce soir. Amen. Seigneur, tu nous montres le chemin, tu nous parles par ta parole. Tu nous enseignes le chemin à suivre. Tu nous parles aussi de ce que tu as subi à notre place. Pardon. Je veux redire encore chaque jour. Pardon pour ce que je t'ai fait. Non pas parce que je doute sur ce pardon que j'ai reçu. Je sais qu'il est profond, mais j'ai plaisir à te dire pardon, Seigneur. Et à te dire un grand merci en même temps. Merci pour ce que tu m'as donné l'assurance d'être sauvé. Et aujourd'hui, je peux dire que la joie que j'ai trouvée, c'est un vrai bonheur. Un bonheur que personne ne peut m'enlever. Parce que c'est toi qui le tiens. Et toi, personne ne peut t'atteindre. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le plus fort. Celui qui a tout créé, le monde, la terre, tous. Tout a été créé par toi. Moi compris, chacun d'entre nous compris. Et je peux me confier en toi parce que tu connais tout. Tu sais tout et tu es capable de me garder. Merci Seigneur. Tu es au-delà de tout. Tu règnes Seigneur Jésus. Merci mon Dieu de proposer à chacun d'entre nous et de m'avoir proposé un jour d'être sauvé. De recevoir ce salut, d'avoir l'assurance du salut, l'assurance d'aller au paradis. Je te remercie parce que c'est pas par mes propres forces. J'ai pas dû acheter. J'ai pas dû faire des efforts. J'ai simplement dû croire et recevoir. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Sois béni. Amen.